en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 13 mai 2008, Michel Serres de l'Académie française intervenait à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris dans le cadre d'un séminaire national organisé pour une réflexion autour de l'enseignement intégré de la science et de la technologie au collège. Précisons que les travaux de ce séminaire ont été ouverts par Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et par Pierre Léna, également de l'Académie des sciences, délégué à l'éducation et à la formation au sein de cette académie. Écoutez maintenant la retransmission de l'intervention de Michel Serres. Il parle de l'appauvrissement et de la survie de notre langue, de la richesse de ses mots et de sa grammaire, bref, de tout ce qui constitue la beauté et les menaces de notre langue française.
Je voudrais d'abord dire que je ne suis pas du tout linguiste, que je ne connais rien à la linguistique. Et c'est sans doute pourquoi Pierre Léna m'a demandé de parler des mots, de la langue, et d'essayer de répondre à ces multiples questions. Quelle langue parlons-nous? Quelle langue parlent les scientifiques? Quelle langue parlent les divers spécialistes? Quelle langue parlent les littéraires? Quelle langue parlent nos élèves? Quelle langue parlent les maîtres? Bref, des questions qui concernent la manière de parler. D'abord, je ne suis pas linguiste et il faut que j'avoue que le français, celui que j'utilise maintenant, est ma seconde langue, puisque lorsque j'étais jeune, j'ai été nourri en gascon, c'est-à-dire dans un patois d'Occitanie, et que cette langue régionale, car je vais beaucoup parler de langue régionale, que cette langue régionale est morte ou à peu près, malgré tous les essais de la faire renaître, et que la question qui est posée à la mort d'une langue régionale est très simple. Pourquoi et comment est-elle morte? Parce que j'ai assisté à cette mort-là. Alors d'abord, il y a des livres d'histoire qui racontent qu'elle est morte parce que les instituteurs ont obligé les enfants des paysans à parler le français et non pas les dialectes régionaux, ce qui est un vantardise ordinaire à nous autres professeurs. Nous croyons toujours décider du monde entier. Ce n'est pas évidemment vrai qu'elle est morte de là. Je crois qu'elle est morte en partie parce que la paysannerie a disparu en nombre et que, à mesure que la paysannerie disparaissait, disparaissaient en même temps les langues régionales, mais que la vraie raison n'est pas celle-là. Que la vraie raison, c'est qu'une langue disparaît lorsqu'elle ne peut pas tout dire. Et que cette question se pose aujourd'hui pour nous dans le français et dans les langues ou les réponses à la question que j'ai à poser, en quelle langue parlons-nous? Et en effet, nous nous sommes mis à parler la langue d'Euler ou le français simplement parce qu'on ne pouvait pas dire ni nucléotide ni octaèdre en langue d'oc. Dès lors qu'une langue ne peut pas tout dire, elle est virtuellement morte. Et par conséquent, j'appellerai langue régionale non pas une langue attachée à une région, comme la Provence, l'Alsace, la Bretagne, etc., mais une langue qui n'est attachée qu'à une région cognitive, c'est-à-dire celle qui ne parle que d'un endroit, d'une région du sens, et qui ne peut pas s'exprimer dans une autre région du sens. Une langue régionale, c'est celle-là, et toute la question se pose aujourd'hui de savoir si la langue que nous parlons, la langue française, est devenue une langue régionale. Est-ce que nous pouvons tout dire en français? Et bien entendu, cette question est très urgente, puisque pour le moment, le français sait dire nucléotide et octaèdre, mais pour combien de temps? Pour combien de temps cela va-t-il durer? La réponse aux questions que j'ai posées en commençant, quelle langue parlons-nous, elle se décline aussi sous la forme combien de temps parlerons-nous encore cette langue-là? Alors, bien entendu, cette question se pose à propos de l'universalité d'une autre langue qui envahit la nôtre, c'est-à-dire l'anglais. Et est-ce que vraiment il y a danger là, de ce point de vue? La réponse est oui et non. Non, d'abord parce que nous avons toujours eu une langue de communication. Dans l'histoire, les langues de communication ont commencé, à ma connaissance, vers le 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, où le grec, sur la totalité du monde habité, est devenu la koiné, c'est-à-dire la langue commune aux marins, aux commerçants et aux scientifiques. Et en effet, nos amis juifs disent « synagogue » sur le mot grec et non pas hébreu, et nos amis égyptiens disent « pyramide », ce qui est un mot grec également. Par conséquent, la koiné est d'abord été grecque, puis elle a été remplacée par le latin. Le latin est devenu la langue commune, et la langue commune qui a duré très longtemps, puisque la fin du XVIIIe siècle encore, Gauss écrivait les Disquisitiones Arithmeticae, les recherches arithmétiques en latin, et que la thèse de Bergson, à la fin du XIXe siècle, 1898, est encore en latin, quid Aristoteles de loco sinceri, c'est-à-dire ce que Aristote pensait de la question de l'espace. Et vous savez aussi que l'arabe a tenu ce rôle-là pendant 4 siècles après l'Égire, et que pour la médecine et l'astronomie, elle a été une langue générale qui a été le véhicule souvent des sciences que nous avons reçues à la Renaissance. Et nous disons encore algorithme, ce qui est la répétition du mot alquarismi, qui n'est pas du tout un mot grec, mais un mot arabe. Enfin, alquarismi était iranien et écrivait en arabe. Et le français a été la langue de communication scientifique et intellectuelle, disons, et même commerciale, tout au long des âges classiques, 17e, 18e siècle et début du 19e, y compris la langue diplomatique, et désormais l'anglais a pris le relais. Est-ce que la langue diplomatique devient une langue universelle? C'est toute la question. Et jusqu'à maintenant, les langues de communication n'étaient pas les langues universelles. Est-ce qu'aujourd'hui, cette langue-là va-t-elle devenir universelle? C'est aujourd'hui la question. Et je n'en suis pas sûr, parce que nous ne pouvons pas prévoir, et je suis incapable de prévoir, si demain, après-demain, c'est-à-dire dans les siècles futurs, quelle sera la langue de communication, car on voit très bien comment l'ourdou, comment le cantonais, comment même l'espagnol se répandent beaucoup plus rapidement que l'anglais, et par conséquent, on ne voit pas pourquoi une autre langue ne prendrait pas ce relais-là, puisque l'anglais n'est finalement que la énième langue de communication qui a marché dans l'histoire. Voilà le premier argument, diversité des langues de communication. Et d'ailleurs, si vous connaissez le nom des étoiles, vous verrez que cette koiné-là est inscrite dans le ciel. Dans le ciel, en effet, vous trouverez des étoiles grecques. Arcturus est un nom grec, des étoiles au nom latin. Sirius est une langue latine, tandis que Bételgeuse et Rigel de la constellation d'Orion sont des mots arabes. Par conséquent, si vous regardez le ciel, vous regarderez les langues de communication, bref, la koiné générale de la science depuis plusieurs siècles. Deuxièmement, à ce sujet de la langue de communication aujourd'hui anglo-saxonne, je suis très hésitant sur le caractère réellement anglais de cette langue-là. En effet, lorsque on voit ou on entend les savants ou on lit les savants parler cette langue-là, j'ai souvent l'impression qu'ils parlent plutôt, attention, régional, c'est-à-dire astrophysique, biochimie, physique de la Terre, plutôt qu'anglais. Pourquoi ? Parce que les vocabulaires qu'ils utilisent sont souvent les mêmes dans toutes les langues, mais la vraie langue, c'est l'astrophysique, la vraie langue, c'est la physique de la Terre, la vraie langue, c'est la biochimie. Mathematical propositions, je l'entends comme proposition mathématique, c'est le même mot. Et par conséquent, là encore, les savants parlent plus facilement leur région que cette koiné-là, que cet anglais. Autrement dit, est-ce que vraiment ils ont besoin d'apprendre l'anglais pour dire leur discipline ? Leur discipline se dit comme ça, de façon presque autonome. D'autre part, l'anglais qui est utilisé me pose souvent des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent d'origine gréco-latine, tout simplement. Et j'en veux pour preuve que 2 exemples tout à fait récents. Un des métiers les plus récents qui soit apparu sur la terre américaine, où je vis la moitié du temps, c'est un métier qui est un métier féminin et qui accompagne les sages-femmes au moment des accouchements, du point de vue psychologique, etc. On appelle ce métier les doulas. Et les doulas n'est pas du tout un mot anglais ou américain, c'est simplement le féminin du doulos grec qui veut dire l'esclave. N'est-ce pas ? La doula, c'est l'esclave de la sage-femme ou l'accompagnatrice de la jeune accouchée. Et de la même façon, lorsque les Américains ont voulu remplacer par un mot original le camion anglais qui se disait lorry, ils ont utilisé le mot truck. Et le mot « truc », vous reconnaissez, vous qui êtes tous hellénistes, le « trokos » grec, qui veut dire le charaban des Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et par conséquent, souvent, sous des apparences extrêmement anglo-saxonnes, ce vocabulaire est souvent tout à fait traditionnellement gréco-latin, c'est-à-dire d'une certaine manière, je le répète, cette langue-là de communication est souvent plus régionale que universelle. Bon, troisième raison maintenant. J'ai l'impression que la question que j'ai posée au départ, quelle langue parlons-nous, est une mauvaise question. Qu'est-ce que ça veut dire parler une langue ? Et en commençant, j'ai dit que je parlais d'abord la langue d'oc, ensuite la langue française, et ensuite, plus ou moins péniblement, des langues vivantes. Mais est-ce que je parle anglais ? J'en suis pas complètement sûr. Pourquoi ? Parce que parler une langue, le plus souvent, c'est parler un faible fragment de cette langue-là. On parle combien ? 10% des mots, 20% des mots, 30% des mots. Bref, une langue est un iceberg qui est plus ou moins plongé au niveau de la mer et qui a une partie basse, immergée, dormante, souvent morte, et une langue émergée, une partie émergée. Cette partie émergée serait, disons, le vernaculaire, ce qui est échangé normalement. Quelle langue parlons-nous ? Réponse, la partie émergée de l'iceberg. Mais qui parle la partie émergée et qui le fait et de quelle manière ? Alors ça devient vraiment très intéressant. Ça devient intéressant pourquoi ? Parce que si je consulte les grands auteurs de langue française, je m'aperçois qu'il y en a de diverses variétés. Par exemple, Racine parle avec très très peu de mots. Et il parle avec si peu de mots que j'ai calculé le nombre, et je me suis aperçu que lorsque les polémistes disent que telle ou telle personne aujourd'hui est illettrée, on s'aperçoit que les illettrés en question parlent avec encore plus de mots que Racine lui-même. Et par conséquent, il n'est pas inintéressant de tenter de calculer la dite proportion. Alors que Victor Hugo utilise énormément de mots, Racine en utilise très peu, Balzac beaucoup, etc. Et selon tel ou tel auteur, on s'aperçoit que les proportions sont très variables. Il ne me viendrait pas à l'esprit de dire que Racine est vraiment un écrivain illettré. Et là, je rentre dans une autre considération que je voudrais vous livrer, parce que ça a été pour moi une découverte relativement récente. Vous voyez à quel point je ne connais pas ma langue. La question que m'a posée Pierre Léna, c'était des mots. Et cette question n'est pas une question de langue française. Pas du tout. Je reviens au nombre de mots que Racine utilisait. Très peu de mots. Pourquoi ? Parce que la langue française n'est pas une langue de mots. Quand on dit que de mots, c'est une question anglaise. Pourquoi ? Parce que l'anglais est une langue atomique. L'essentiel de l'anglais, c'est le mot. L'essentiel de sens, l'unité de sens de l'anglais, c'est le mot. Et c'est une langue atomique. L'unité de sens du français n'est pas le mot. L'unité de sens du français, c'est la phrase, c'est la proposition. Et par conséquent, avec très peu de mots, Racine utilise des propositions extraordinairement souples, raffinées, nombreuses et sophistiquées, de telle sorte qu'il parle un français d'une richesse exceptionnelle sans mots. Le français est une langue, disons, moléculaire. Elle associe des atomes, mais l'essentiel pour elle, c'est des mots. Et ceux qui savent parmi vous l'allemand savent que le choix de l'allemand, le choix de l'unité de sens allemand, est juste au milieu entre l'anglais et le français. C'est-à-dire que l'allemand adore coller des mots ensemble pour faire une unité un peu plus compacte, c'est-à-dire des mots composés. Et donc il choisit, lui, comme unité de sens, non pas l'atome, non pas la proposition, mais le milieu entre l'un et l'autre. Et donc, la question maintenant est de voir que l'originalité d'une langue n'est pas forcément dans la sémantique. Quand je posais la question « quelle langue parlons-nous ? Combien de mots parlons-nous ? » On oublie cette idée profonde que le génie du français, que l'unité du sens du français, n'est pas forcément dans la prolifération du vocabulaire. Que de mots, je le répète, c'est une question à l'anglaise. Et lorsqu'à l'Académie, nous faisons le dictionnaire, je rouspète régulièrement en disant « nous ne nous occupons pas de la langue française ». La langue française est grammairienne, elle n'est pas sémantique. La langue française n'est pas dans les mots, elle est dans les phrases. Par conséquent, la syntaxe est plus importante pour nous que la sémantique. Et elle est régionale pour ça. Autrement dit, lorsque nous précipitons le français vers la langue régionale, nous nous demandons souvent, en matière de science, et Laforgue le dit très souvent, nous nous précipitons vers l'idée suivante. Si on perd une langue, est-ce qu'on ne perd pas par hasard un angle d'attaque très, très précis sur un problème déterminé? Autrement dit, je me pose souvent la question, moi qui habite le plus souvent aux États-Unis, je vois très bien que « town » et « city » ne traduisent pas du tout le mot « ville ». Parce qu'il y a des types de villes en Europe et des types de villes aux États-Unis, et les mots ne recouvrent pas le même sens. Et je soupçonne souvent nos amis scientifiques, quelle que soit la précision et la rigueur de leur vocabulaire, de ne pas dire la même chose lorsqu'ils parlent de biochimie ou d'astrophysique, lorsqu'ils sont japonais, anglais, allemand, français ou espagnol. Sous le même vocable, l'angle d'attaque est différent. Et je ne savais pas pourquoi l'angle d'attaque était différent, et je l'ai découvert dès lors où je me suis aperçu que les unités de sens n'étaient plus les mêmes, que les unités n'étaient pas dans la sémantique, mais dans la préposition, ou au contraire dans l'agglomération d'un certain nombre de mots comme en allemand. C'était ma troisième remarque. Ma quatrième remarque, maintenant, porterait sur la partie basse de l'iceberg. Alors, je disais que dans la partie haute de l'iceberg, c'était, disons, les mots les plus courants. C'est la langue que nous parlons de manière vernaculaire, dans la rue, que nous parlons en famille, et ainsi de suite. Et la partie basse, j'appellerais ça les corpus. En effet, une langue est riche lorsqu'elle a, lorsqu'elle comprend, lorsqu'elle intègre un certain nombre de corpus très particuliers, de corpus très régionaux, régionaux au sens que j'ai donné à ce mot tout à l'heure. Et par exemple, en algèbre, en géométrie, en mécanique, en astronomie, en physique, en chimie, en biologie, bref, dans toutes les sciences dures, le corpus de langue française est gigantesque. Il est gigantesque pourquoi ? Parce qu'il dure depuis, disons, 14e siècle, 15e siècle, les premiers traités d'algèbre du Moyen-Âge. Et curieusement, en anglais et en allemand, ce corpus est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce que les sciences à cette époque-là sont beaucoup plus récentes, alors qu'en italien, par exemple, ce corpus est aussi énorme qu'en français. Enfin, pour détendre l'atmosphère, je vous dirais volontiers qu'au Moyen-Âge, il y avait un algébriste anglais qui avait tellement honte de s'appeler Hollywood, Hollywood était un mot tellement rare, qui s'est empressé de transformer son nom en Sacrobosco. Et Sacrobosco est un mathématicien très connu de la fin du Moyen-Âge, et Sacrobosco ne fait que traduire en langue latine, c'est-à-dire en italien, le mot Hollywood. Et la prochaine fois que vous irez à Hollywood, appelez donc Sacrobosco. Vous voyez que la préoccupation publicitaire des savants ne date pas d'Einstein, mais date déjà du Moyen-Âge. Et je pense souvent qu'une langue est vraiment puissante, une langue est vraiment intéressante dès lors qu'elle multiplie la partie basse de ses icebergs. La partie haute n'a peut-être pas tellement d'importance. On croit que le français est encore vivant parce qu'il se parle dans la rue à Haïti, en Belgique, en Suisse ou en Afrique noire. Mais s'il en reste seulement à ses parties hautes, c'est-à-dire à l'utilisation vernaculaire du langage, alors il est mort. C'est-à-dire la vraie vie d'une langue, c'est les parties basses de l'iceberg. C'est la puissance et l'utilisation de ces mots rares. Et curieusement, une langue est vivante par ses mots rares. Une langue est vivante par les corpus en question. Je crois même, il y a probablement ici des gens qui savent mieux que moi ce que c'est que le métier d'un écrivain. Et je pense profondément qu'un écrivain, de langue française par exemple, il a pour métier essentiel de faire passer des mots de la partie basse de l'iceberg à la partie haute de l'iceberg. C'est-à-dire d'aller draguer des mots rares, des mots de fleurs, des mots de métier, des mots de science, etc., d'aller les chercher dans la partie basse de l'iceberg et de les projeter dans la partie usuelle ou vernaculaire de l'iceberg. C'est ça le métier qu'en tant qu'écrivain je me donne. C'est-à-dire, je crois qu'un écrivain, c'est cela. Je ne sais pas, par exemple, Stendhal a dit le mot « tourisme ». Ben, le mot « tourisme » était absolument rare. Il était en dessous de l'iceberg. Il a mené au début. Et il y a de cela mille autres exemples. Par conséquent, une langue, au contraire, se fragilise et se fragilise puissamment dès lors qu'elle n'a que des locuteurs vernaculaires. C'est-à-dire, la langue devient régionale lorsqu'elle n'a plus que ses mots courants. Et dès qu'elle elle est privée des mots techniques, des mots de science, des mots de métier, etc., alors elle est presque en voie de disparition. Elle devient régionale. Et la langue régionale dont je parlais en commençant et qui était la mienne au début, elle est morte de n'avoir eu que des locuteurs paysans qui ne parlaient que du quotidien. Et j'ai peur aujourd'hui qu'en écrasant la langue française du côté de la langue des médias, c'est-à-dire une langue extrêmement pauvre et toujours usuelle, nous ne faisions que précipiter la langue vers sa mort, tout simplement parce qu'on oublie toujours cette espèce de cave profonde où il y a toutes les bouteilles qu'on va remonter au moment de la fête, vous voyez, pour fêter Noël, le premier de l'an, ou le dimanche de Pâques. Et vous le faites sans arrêt en tant que professeur, vous le faites sans arrêt en tant que scientifique, de faire remonter le vocabulaire technique d'en bas vers le haut. Et enfin, je voudrais parler de nouveau du langage scientifique, revenir sur le langage scientifique, parce que plusieurs questions m'ont été posées, et que j'ai lues avant de faire mon texte, plusieurs questions m'ont été posées sur une sorte d'équilibre entre le vocabulaire littéraire, dit littéraire, et le vocabulaire dit scientifique. Et je voudrais préciser là le travail du scientifique, parce que je viens de préciser le travail de l'écrivain. Je voudrais décrire le travail du scientifique. Vous savez sans doute ce que signifie le mot « poète ». Le mot « poète » est rentré en décadence assez rapidement, et il a désigné une sorte de rêveur qui parle d'une certaine manière, avec le cœur, dit-on, ou l'imagination, ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. « Poète », ça ne veut pas dire ça. « Poète », ça veut dire « créateur ». Ça veut « fabricateur », c'est-à-dire « fabricateur de langue ». Et lorsque je dis « fabricateur de langue », je prends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de Stendhal, qui a créé le mot « tourisme », par exemple, ou d'autres écrivains qui ont créé d'autres mots. Les principaux créateurs de langage sont les scientifiques. Il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire, lorsque un scientifique découvre un nouveau phénomène astronomique, un nouveau phénomène chimique, un nouveau phénomène physico-chimique ou biochimique, il est obligé d'inventer un mot. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la différence entre trois inventeurs, par exemple au XVIIe siècle, en même temps, Pascal, Leibniz et Newton inventent le calcul infinitésimal. Mais qui l'a inventé vraiment? Eh bien, ni Pascal ni Newton, parce qu'ils n'avaient pas de bonne création de vocabulaire. Le vrai vocabulaire, c'est Leibniz qui l'a inventé, et par conséquent, c'est lui qui a inventé le calcul infinitésimal. Pourquoi? Parce qu'il a su le nommer, il a été le poète de ce langage-là. Et à partir de lui, on a utilisé son langage à lui, parce qu'il avait créé ce vocabulaire. Et par conséquent, je crois bien qu'aujourd'hui, nous avons un constat à faire, et c'est là que je pose la vraie question sur laquelle je voudrais terminer, et sur laquelle je voudrais vraiment vous sensibiliser de façon très forte. C'est la suivante. Depuis, disons, 1935, 1940, c'est-à-dire au voisinage de la déclaration de la Deuxième Guerre dite mondiale, qui n'était aussi peu mondiale que possible, que les historiens appellent mondiale. Vers 1935-39, paraît la dernière édition par rapport à la contemporaine, du dictionnaire de l'Académie française. Donc nous pouvons avoir un bilan de la langue française autour de cette époque-là, c'est-à-dire début de la Seconde Guerre dite mondiale. Et si nous comparons au bilan que nous pouvons faire aujourd'hui de la langue française en termes de mots, que de mots, quelle langue parlons-nous? Le bilan est extraordinaire et fait presque peur. Savez-vous, chers amis, qu'entre cette édition et maintenant, c'est-à-dire en gros le temps de ma propre vie, le gradient de croissance de la langue française a été de 30 à 35 000 mots. Or, dans les éditions précédentes, on connaît à peu près le gradient de croissance. Il était de 2 à 3 à 4 000 mots, pas plus. Et maintenant, il est monté à 35 000 mots. 30, 35 000, certains disent 25, 28, on peut dire 35, enfin, disons, on peut se stabiliser autour de 30 000 mots. Alors, si on pense que la langue française que nous parlons, hein, partie immergée de l'iceberg, est en gros de 120 à 150 000 mots, ce qui est très différent de la langue anglaise qui est beaucoup plus riche parce que tout le français est dedans, eh bien, le gradient de croissance est égal à 20 à 25%, ce qui n'est jamais arrivé. Autrement dit, nos étudiants ne parlent plus la même langue que Gide, que Poincaré, que Zola. Et après, on s'étonne de savoir pourquoi ils ne peuvent plus lire ni Corneille, ni Racine, ni Molière, comme nous ne pouvions pas lire déjà, ou très mal, Rabelais et l'ancien français. Donc le gradient de croissance est formidable, et il nous impose l'idée que nous sommes en train de vivre un changement de langue dont nous n'avons même pas conscience. Et donc l'Académie même n'a pas conscience. Et lorsque je crie en disant « Attention, ce n'est pas la même langue que nous parlons », les gens ne s'en aperçoivent pas. Donc prenez conscience, chers amis, que nous sommes en train de vivre un séisme extraordinaire du point de vue linguistique. Et que vos problèmes d'enseignement ne sont pas dus à ceci, à ceci, à cela, mais sont surtout tenus au fait que nous ne parlons plus la même langue, même que nos parents, que nos prédécesseurs les plus immédiats. Nous ne parlons plus la même langue, et encore plus, nos élèves parlent encore moins la même langue que nous. Alors, ce n'est pas question de littéraire, il n'est pas question de scientifique, il n'est pas question d'astronome, il est question de la langue dans son ensemble, partie émergée. Et cette langue-là vient de se transformer de telle sorte que c'est un événement transhistorique, absolument historique. Alors, bien entendu, toute la question serait de savoir, et là-dessus, je ne suis pas linguiste, parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas de linguiste scientifique, c'est une catastrophe, d'ailleurs, serait de savoir quels sont ces 35 000 mots. Et à vue de pays, il suffit, j'ai fait un test là-dessus, par exemple, si vous prenez le dictionnaire Larousse, 8 volumes, chef-d'œuvre de l'édition cartonné avec des planches que certains d'entre vous ont peut-être chez eux. Si vous consultez ce dictionnaire-là, dont la dernière édition est de 1954, et si vous regardez les planches de métiers, il n'y a plus un seul métier qui est en fonction aujourd'hui par rapport à 1954. D'ailleurs, tous les métiers ont changé. Le vocabulaire scientifique a complètement changé, le vocabulaire médical a complètement changé, puisque la médecine n'existait pas d'une certaine manière en 1935. Elle ne savait pas soigner. Elle savait le diagnostic, le pronostic, mais elle n'avait pas de soins. La révolution médicale date des années 45-52, à peu près. Donc tout le vocabulaire médical est nouveau. Et puis il y a des sciences qui sont apparues. Il y a devant moi des savants qui savent parfaitement qu'ils sont dans une nouvelle science à partir de 1960-70. Et par conséquent, j'ai l'idée que parmi ces 35 000 mots, y compris vernaculaires, la plupart sont des mots de métier, sont des mots de science, sont des mots qui sont apparus, etc. Et toute la question serait de savoir alors, mais là je ne sais pas non plus répondre, s'il en est de même pour le gradient de croissance en espagnol, en portugais, en italien, en allemand, en anglais, en chinois, en ourdou, je ne sais pas. Et une intuition me fait penser que oui, que d'une certaine manière, les mots nouveaux qui sont apparus dans notre langue, s'ils sont des mots de science, s'ils sont des mots de technologie, s'ils sont des mots de métier, etc., sont probablement à peu près des mots analogues dans les langues que je viens de citer. Auquel cas, il faudrait aussi savoir si ces 35 000 mots sont des mots d'usage courant ou des mots rares. Et je parie encore que c'est des mots d'usage courant. Auquel cas, la langue que nous parlerions serait étrangement commune avec les langues dont je viens de citer les noms, portugais, italien, espagnol, etc. Par conséquent, aujourd'hui, vous êtes réunis pour deux raisons. Une raison de passation d'enseignement, c'est-à-dire de transfert de votre connaissance à la génération suivante, premièrement. Et deuxièmement, sur des questions qui essaient de cadrer comment enseigner les sciences alors que vous disposez qu'un vocabulaire littéraire. Alors là-dessus, je peux répondre très bien. C'est la première question qui m'a été posée. Dit, c'est curieux, comment faisait Lavoisier, comment faisait Laplace ? Alors, la réponse est très simple, c'est mon métier, l'histoire des sciences, de vous le dire. C'est que, jusqu'à récemment, et je peux dater, je le daterai tout à l'heure, l'événement en question, Laplace, Lagrange, bref, les savants qui font la gloire de la France, parce que la France est à cette époque-là le premier pays scientifique, autour des années fin du XVIIIe, début XIXe siècle, tous les savants parlaient vernaculaire. Les mots techniques étaient relativement rares. Et lorsqu'on lit la mécanique céleste de Laplace ou lorsqu'on lit la mécanique analytique de Lagrange, on s'aperçoit que tout était rédigé en français et de temps en temps, ils mettent une équation. De temps en temps seulement, ils mettent une équation. Tout est expliqué avec la syntaxe vernaculaire, c'est-à-dire avec des mots courants. Et puis, peu à peu, à mesure que la science avance, le vocabulaire vernaculaire recule. Il recule de plus en plus, et sur une page donnée où il y a trois équations, il va y en avoir 10, il va y en avoir 20, et le vocabulaire ordinaire va reculer. Et par conséquent, ne comparez pas les sciences et les lettres, c'est pas possible. Ce qui est comparable, c'est le 19e siècle et aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne parle plus la science de la même façon qu'on l'a parlé à l'époque de Lavoisier. Et par conséquent, ne croyez pas que c'est un phénomène littéraire scientifique. Non, c'est simplement une évolution de la science, une manière de la dire. Mais je voudrais revenir, pour finir encore, avant que vous me posiez des questions, sur l'événement que je viens de pointer, c'est-à-dire l'événement considérable du changement de langue aujourd'hui. La question est à la fois locale et mondiale. C'est-à-dire, quel type de langue parlerons-nous demain ? Je ne peux pas le prévoir. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque langue en particulier devient d'une certaine manière régionale par rapport à ce tremblement de terre. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai vu mourir la langue d'oc, c'est vrai que j'ai une angoisse folle de perdre mon métier, c'est-à-dire ma propre langue, parce que la langue, c'est quand même mon amour, mon métier, ma passion et ma vie, vous voyez. Et je la vois devenir dangereusement régionale. Mais tout à coup, ce qui me console, c'est de voir que toutes les autres langues sont dans un processus évolutif tel qu'ils subissent aujourd'hui le même séisme, le même tremblement de terre et la même transformation. Allons-nous vers une langue universelle ? Possible. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter la retransmission de l'intervention de Michel Serre de l'Académie française à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris dans le cadre d'un séminaire national auquel participaient plusieurs membres de l'Académie des sciences.